c'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi.
Bien le bonsoir, monsieur Edmond. Bien le bonsoir, monsieur notre invité.
Bien le bonsoir.
Qui se présentera. L'émission, je
Il fera le job. Bah, dis donc, on est bien reçus. Je m'ennuie bien.
Ah, bah écoutez, c'est les limites du bénévolat. Hein. Et donc, voilà. Nous allons parler de saison théâtrale ce soir.
De culture, même au sens large. Hein.
Voilà. Et un tout petit peu plus tard, dans quelques minutes, Madame Ginette nous rejoindra pour sa chronique. Et puis, en fin d'émission, ce sera Monsieur Kogan pour sa rubrique culturelle. Mais nous aurons largement parlé de culture déjà auparavant.
Oui, mais il sera plus sur le cinéma, comme d'habitude, je pense. Hein. Cinéma, série télé. Tandis que là, nous recevons un personnage quelle idée lui a pris, mais de vouloir monter une saison culturelle dans un endroit complètement paumé qui s'appelle Guéret. Oui. Au fin fond de la Creuse. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça, monsieur Herp.
Eh bien, parce que je suis arrivé, je n'ai pas raconté ma vie, hein, mais je suis arrivé un jour à Guéret, on va dire un peu par hasard, pour animer un atelier de théâtre et je me suis plu dans cet endroit. Ça me rappelait un peu les endroits où j'avais vécu quand j'étais jeune. J'habitais à Brive, Tulle, et il y avait une vie humaine, et j'ai trouvé une vie humaine là. Puis j'ai commencé à rencontrer des gens. C'est pas une grande ville, hein, effectivement, c'est pas une énorme ville, mais je m'aperçois qu'on rencontre beaucoup plus de gens dans les petites villes que dans les grandes villes. Et au bout d'un moment, on a beaucoup d'amis, on a beaucoup de personnes qu'on a plaisir à voir. Et puis on a envie d'inventer des projets. Et puis l'occasion s'est passée, on a inventé un projet énorme.
Alors donc Hervé Hepp est le directeur artistique, donc pour ceux qui ont l'habitude de venir en Creuse et à Guéret, de la Guérétoise de spectacle, qui est un endroit très connu, qui pour l'instant habite, on peut dire, à l'espace Fayolle.
Habite à l'espace Fayolle, tout à fait. Oui, on est à l'habiter, et puis on utilise d'autres salles de la ville aussi. Hein.
Mais bon, c'est là où on peut vous trouver le plus facilement. Et alors, ça marche, la culture théâtrale à Guéret, le spectacle vivant, c'est possible ?
Ah, non seulement c'est carrément possible, mais on a réussi de véritables miracles. On a un taux de remplissage des salles qui est assez exceptionnel par rapport à ce qui se passe actuellement chez certains collègues. Et puis, on a un peu la folie aussi d'inventer des choses improbables. Et il y a 10 ans, on s'est dit, tiens, on va faire un festival de culture urbaine à Guéret. Alors au début, il y avait vos collègues qui nous téléphonaient en rigolant, pas de chez vous, mais d'autres radios et d'autres télés, ils venaient nous voir comme si on était des fous. Un festival de culture urbaine à Guéret, ça les faisait rire. Et là, on est devenu incontournable, carrément Nouvelle-Aquitaine. Puisqu'on a monté un festival gigantesque qui dure 10 jours avec une cinquantaine de propositions, des artistes, la fête. Et là maintenant, on est reçu dans les médias avec un peu plus de respect.
Comme c'est étrange.
C'est bizarre.
Alors j'en ai justement entendu parler, j'ai pas pu y aller l'année dernière, mais alors on m'a notamment parlé de spectacle, je crois que c'était de la danse hip-hop, battle hip-hop à Le Jeune. Et alors vous avez refusé du monde, là carrément, il y a des gens qui n'ont pas pu venir.
Ah oui, alors là ça a été dangereux. Quoi. Là c'était carrément dangereux, il y avait 850 personnes dans une salle. Alors le battle, le hip-hop, il y a des règles, les spectateurs sont au même, puisque c'est un sport de rue, de la danse de rue. Donc comme dans la rue, ben, on est au même niveau, il n'y a pas d'estrade, et on se met autour, on s'assied par terre, et le problème c'est qu'on voyait les gens arriver, puis au bout d'un moment, ben, pourtant ils étaient hyper serrés, ils ne pouvaient même plus s'asseoir, ben, tout le monde est resté. Et effectivement, ça a été. On a calculé des choses pour cette année pour que ce soit un petit peu plus fluide. On va agrandir un peu l'espace.
Mais alors, d'où ils viennent tous ces gens ?
Alors c'est incroyable parce que la culture hip-hop. Alors bon, on a des Guérétois de Guéret. Hein. Alors c'est marrant parce que on a les jeunes qui voilà les jeunes. Mais maintenant les danseurs de hip-hop, au départ, ils avaient un âge, mais maintenant ça fait 40 ans quoi. Donc on commence à voir, on a vu des moi j'ai vu une performance d'un monsieur qui avait 60 ans, qui est monté sur la piste, extraordinaire. Et donc on a les jeunes, et des très jeunes, on a les familles, on est obligé de sortir des chaises, parce qu'on a des personnes âgées qui viennent voir...
La danse hip-hop.
Ah mais c'est incroyable, on a toute une rangée au fond là-bas, avec des personnes âgées qui apprécient et qui restent les 3 heures du battle.
Et ils viennent avec leurs pliants et ils s'installent.
Il y en a, j'ai vu une dame arriver avec un coussin pour mettre sur sa chaise, parce que les chaises étaient un peu dures dans un truc de hip-hop. Et non, c'est une grosse fête, c'est une fête énorme, quoi. On accueille des battles avec des artistes internationaux. Alors, c'est pas parce qu'ils sont internationaux qu'ils sont bons, parce qu'on a des équipes qui viennent de Limoges, de Poitiers, de Bordeaux, qui sont extraordinaires, mais des fois, ça parlait dans toutes les langues. Et c'est un super moment. Moi, j'adore ce moment parce que c'est une compétition, mais on a l'impression d'une compétition de chevaliers avec des codes, avec beaucoup d'humour, avec de la provocation, mais très saine, du genre nanana, j'ai fait ça et pas toi, quoi. Et...
Pas comme dans le catch, alors.
Exactement. Sauf que dans le catch, on est obligé de déclarer qui est le gagnant avant le match. Tandis que là, on ne sait pas qui est le gagnant avant le match, puisque c'est un jury de 3 danseurs professionnels. Et c'est génial, parce que depuis le temps que Urban Culture dure, il y a 10 ans, mais moi, j'ai vu arriver, les premières années, j'ai vu arriver un jeune gamin, un tout jeune gamin qui devait avoir 12, 13 ans, quoi, et qui dansait, mais fabuleux. Puis alors, en plus, il me faisait rigoler parce qu'il faisait plein de vannes sur scène. Et bien, l'année dernière, il était dans le jury, c'est devenu un danseur international, quoi, du hip-hop.
Ah ben alors, donc, vous l'avez compris, même si vous êtes en déambulateur, vous pouvez venir faire le hip-hop.
Ah ben, carrément.
Est-ce qu'on a droit aux accessoires? Je ne sais pas. Alors Hervé App, avant de parler plus précisément, alors déjà si on peut dire quand même Urban Culture, c'est en avril, hein, c'est ça?
Urban Culture, c'est du 22 avril au 3 mai.
Voilà, donc si vous êtes dans le coin, pas trop loin de la Creuse, mais même si vous êtes loin, on trouvera à vous héberger. Voilà, en avril, vous savez où vous pouvez venir écouter du hip-hop notamment. Mais il n'y a pas que ça.
Ouais, il n'y a pas que ça, puisqu'il y a y aura du sport urbain, du streetball, du basket, du skate, je connais pas tous les... Il y a des noms en plus que je comprends pas. Il y aura des open mic, des micros ouverts, comme ici. spécialisés, bien sûr, un peu rap et tout ça, où les gens viennent s'exprimer, viennent chanter des choses. Il y aura des concerts, il va y avoir des projections de films, des... Enfin bon, il y a tellement de trucs que là, on y passerait 3 jours,
oui,
on
non, mais
à l'antenne.
Ouais. On retrouve tout. Ouais. Alors en plus, l'année dernière, je ne sais pas si cette année vous allez refaire quelque chose, mais il y avait un petit clip très rigolo pour annoncer Urban Culture.
Ouais, parce que alors justement, c'est ça qui nous a fait marrer, c'est que le coup des pourquoi de la culture urbaine à Guéret. Et du coup, on a pris une comédienne avec qui je travaille, une dame qui n'est pas si âgée que ça. Mais
là, elle s'était grimée âgée.
Elle était grimée âgée, et en vérité, c'est elle qui est devenue l'égérie d'Urban Culture, puisqu'elle était confrontée au basket, au street basket, elle faisait du hip-hop, elle faisait du skate et tout ça. Et ça a vachement plu, quoi, ça a vachement bien marché, quoi.
Ben, je ne sais pas si Madame Ariotte l'a vu, mais je suis sûr qu'elle aurait aimé, parce que comme elle adore le sketch des Monty Python avec les vieilles qui donnent des coups de sac
alors,
au punk...
Alors oui, sur la délinquance sénile, c'est la traduction en français, je crois.
Voilà, Madame Ariotte, ça vous aurait vraiment beaucoup plu, parce qu'on était exactement dans cet univers. Et c'était la mamie, genre les mamies des Monty Python. Là.
Voilà.
Bon, ben, on va essayer de le retrouver, il doit bien traîner quelque part, vu que le web n'oublie rien. Alors, dans cette émission, j'avais abandonné à un moment donné de faire une chronique sur les titres de la presse de la semaine qui nous paraissaient les plus étranges ou les plus... Mais en fait, il y en a tellement que j'ai pas pu... Voilà. Donc, en plus, même Madame Henriette m'en envoie. Alors, je ne sais que faire. Donc, le titre de la semaine, par exemple, dans cette chronique de Jean-Baptiste Fressoz, quand même, le gars est chercheur au CNRS. Mission spatiale, deux points. Le corps des astronautes bouge, dégage de la chaleur et des gaz perturbant les mesures. Eh oui, quand on est astronaute, hein, ben, il faut, voilà, faut serrer les fesses, des fois, hein, c'est sûr.
C'est important, oui.
Alors, évidemment, comment ne pas avoir un titre avec Trump, c'est pas possible, hein, parce qu'il y a une connerie par jour, donc bon. Mais j'ai gardé la plus belle de la semaine dernière. Diversion. Trump dit qu'Obama a révélé des informations classifiées sur les extraterrestres et ordonne la publication des documents. On a hâte. Alors attention, ça c'est un titre pour vous, Hervé. Je l'ai gardé pour vous. Reconversion.
Oui, aïe.
Ouvrez les guillemets. À 94 ans, on ne ralentit pas, dit le monsieur. Et il s'agit du capitaine Kirk qui se lance dans l'exploration du heavy metal.
Waouh.
Alors il a toujours fait de la musique, mais là il a décidé qu'à 94 ans, eh ben, il passait au heavy metal.
Waouh, c'est super ça.
Donc c'est évidemment William Shatner que beaucoup de gens connaissent, puisque c'était le fameux capitaine Kirk de la série la plus connue.
Ça m'ouvre des portes pour l'avenir, quoi. Hein. Vraiment, j'y avais pas pensé, mais je vais peut-être faire ça, quoi.
Alors j'ai toujours un petit titre pour Madame Henriette. Bon, ça va pas la faire rire, mais bon. La fonte de la banquise menace la survie des manchots empereurs.
Quelle surprise.
Oui, voilà, je savais que ça vous plairait. Et donc, le titre envoyé par Madame Henriette, alors je ne sais pas où elle a ses sources, hein, mais c'est vraiment étonnant. Le croqueur de parmesan arrêté en flagrant délit après des semaines de traque. Après des semaines de traque, c'est ça qui est génial quand même. Donc le mec allait dans des supermarchés bouffer du parmesan, c'est en Italie évidemment.
Et en fait, il mettait juste. Voilà, il faisait
avec 2-3 coups dedans.
C'est ça, comme une espèce de petite souris.
Voilà, ou ceux qui ont eu un cochon d'Inde et qui l'ont mis dans un potager, et ben.
Et tout ça était invendable après, évidemment, ce qui causait un préjudice financier dont on imagine l'importance, sachant qu'en Italie, on a des parmesans en plus qui sont...
réputés.
Et c'est ça, qui sont, comment on dit, labellisés. Hein,
le parmesan, voilà. C'est labellisé. Vous ne pouvez pas appeler parmesan n'importe quoi. Hein.
Mais vous imaginez le taux de perversité pour faire ça.
En tout cas, il a été pris en flagrant délit.
Monsieur, lâchez ce parmesan. À terre.
Vous imaginez aussi le découragement du chef de la sécurité quand on lui dit ta prochaine mission, c'est de retrouver le croqueur de parmesan.
Voilà, donc avec nous, RVF, directeur artistique de la Garrigue-Tasse de spectacle. Alors évidemment, la saison a commencé depuis un petit moment, mais il en reste encore. Hein.
Il y en a beaucoup, oui.
Alors bon, moi je dois vous dire, j'ai absolument pas compris quel était ce début de saison axé sur le football. Quelle drôle d'idée quand même. Si on veut aller au football, on va au stade supporter le FC Guérétois.
Je dois vous dire, Edmond, que moi non plus, je n'ai pas très bien compris parce que je ne suis pas un fan de sport. J'y connais rien, mais j'ai croisé l'année d'avant plein de spectacles qui m'ont fasciné. Et je me suis aperçu après, quand j'ai fait ma liste des spectacles que j'ai envie de présenter au Guérétois, qu'il y avait plein de spectacles qui étaient sur le sport, sur le foot, mais pas que sur le foot, mais il y en avait pas mal. Et ça m'a étonné totalement. Et effectivement, avec le football, et entre autres, un élément dramaturgique qui est extrêmement intéressant, toutes les thématiques autour des spectacles que l'on a programmés. Le premier parlait des Verts, de l'équipe des Verts de Saint-Étienne, avec deux anciens joueurs des Verts qui racontaient un moment où le club allait basculer. C'était vraiment un moment où le club pouvait tout perdre. Et les deux joueurs jouaient sous le même numéro. Il y en a un qui s'est blessé, qui assistait au match de son lit d'hôpital. Et ça raconte l'histoire de cette amitié. Et on s'aperçoit que ça dépasse le domaine sportif. Mais ce qui était étonnant, c'est que les Verts, ça remonte pas. Moi, je me rappelle, j'avais les images Panini quand j'étais gamin, quoi. Donc, c'est pas récent. Et bien, on a vu arriver dans des gamins qui avaient 15-16 ans, quoi. Ils sont arrivés en chantant « Allez les Verts !» C'était un collège qui venait. « Allez les Verts !» Déjà, c'est le choc, il y avait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Et à la fin, ils sont allés voir les joueurs et il s'est passé un truc. Il y en avait qui étaient hyper touchés par le spectacle, il y en avait beaucoup qui faisaient du foot. Et ils se sont fait tous signer leur sweatshirt, leur maillot. Il y en a un qui s'est fait tatouer le dos avec un marqueur. Et voilà. On a eu un autre spectacle que l'on a coproduit, Lady Football Club, qui parle aussi d'une histoire dingue. C'est globalement la formation du premier club féminin de foot, alors que c'était vraiment le cas de le dire, pas dans les mœurs. Et ça raconte l'histoire, et ça raconte aussi l'histoire d'un engagement. Donc voilà, pourquoi le sport.
Non, mais c'était la petite boutade.
Ouais, mais vous avez raison.
Oui, et puis il y avait également le spectacle de William Mesguich qui parle énormément de foot.
Ah oui, alors, effectivement. Oui, William Mesguich, ce énorme comédien et un mec extrêmement généreux, au début de sa carrière, donc affublé quand même d'un papa, on va dire, un petit peu pesant parce que trop célèbre. Daniel,
déjà dans le théâtre.
Hein. Dans le théâtre et dans le cinéma, Daniel Mesguich et puis le petit William. Lui, il voulait faire du foot et le théâtre, il ne comprenait pas parce qu'il y avait plein de gens hyper connus qui passaient chez lui, qui parlaient que de théâtre. Et lui, il voulait faire du foot et heureusement, pour le théâtre,
allons.
Malheureusement pour le foot, il a eu un accident.
On peut le dire, il s'est blessé lors d'un match.
Il s'est blessé lors d'un match et il a décidé de passer au théâtre. Donc, ce que le foot a perdu, je ne sais pas, le théâtre l'a grandement gagné. Et c'est magique de voir William Mesguich qu'on connaît, c'est un grand comédien shakespearien qui est capable de jouer tout, du Beckett, des trucs avec des transformations physiques. Eh bien là, il fait des dribbles, alors j'ai appris le mot, hein. Là il fait des dribbles
des
sur jongles. La scène, il jongle sur la scène, il fait des avec un ballon, c'est étonnant quoi.
Alors, ce qui est étonnant en plus, je suis désolé de rappeler encore, mais enfin quand même, William Mesguich, c'est donc son nouveau spectacle qu'il a écrit lui-même, qu'il a mis en scène avec sa sœur. Et donc la première, c'était Aguerré. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais enfin franchement, mais alors ça ressemble à rien, ça. Qu'est-ce que c'est ?
William, c'est, on va dire, une histoire d'amour artistique. Avec lui, on se connaît depuis des années. Dans tous les endroits où il passe, il dit, écoutez, je suis content. Et puis dans les interviews, il dit, mais la ville de France où j'ai le plus joué, à part Paris, bien sûr, c'est une ville en Creuse qui s'appelle Guéret. On a accompagné...
Et avec Avignon aussi.
Avignon, Paris, Guéret. Avignon, ouais. Et c'est pour ça que on a un rapport. C'est pour ça qu'on a produit son premier spectacle autobiographique qui s'appelle Être ou pas être. Et l'an prochain... on vous dit, on va se faire une année sans Mesguich, c'est bien. Puis finalement, on a craqué. On a deux spectacles l'an prochain. Un spectacle sur Gauguin et Van Gogh, qui est une véritable tuerie que j'ai vue à Avignon. Et puis, un chef-d'œuvre de performance artistique et d'émotion qui s'appelle Des fleurs pour Algernon et qui est un... qu'on aura l'an prochain. Mais ça, je n'ai pas le droit de vous le dire.
Non, mais ne le dites
pas. On efface.
Non, ce qu'on peut dire, c'est aux gens, déjà, aller lire le livre, parce qu'il paraît que le roman, déjà, est fabuleux.
Le roman est génial.
Est-ce qu'on essaye de joindre Madame Ginette ?
Essayons. Êtes-vous en forme ?
Bonsoir, jeunes gens.
Eh bien, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, Madame Ginette est déjà en bien, et j'imagine qu'elle nous a concocté des petites énigmes. Oui.
Mais je voulais revenir sur deux, trois petites choses des Jeux Olympiques qui, alors, soit sont toujours en cours et vont se terminer, soit se sont terminés.
Non, c'est fini depuis dimanche.
D'accord, ouais. Très bien. Il y a eu un petit souci avec certaines médailles, savez-vous quoi ?
Elles n'étaient pas en chocolat.
Alors, pas à ma connaissance, en tout cas, ils ne les ont pas mangées. Ou... Vous pouvez peut-être demander au fou croqueur de fromage.
Je ne sais pas quelle boulette on peut faire avec une médaille. Elles n'étaient pas rondes.
Si. En revanche, le froid aidant et les frais de production étant réduits, certaines personnes se sont retrouvées quand ils ont pris leur propre médaille dans la main à ce qu'elle casse.
Oh, aïe, 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 le symbole.
Des médailles de JO, c'est un peu la honte quand même.
C'est un peu la honte parce qu'il y a des gens qui ont passé toute leur vie pour en arriver là.
Oui,
il y a 3000 caméras au mètre carré.
Puis ça fait cheap quand même parce que
ça fait un peu cheapos, ouais.
C'est des JO qui ont coûté cher en plus puisque quasiment toute la neige est artificielle. Il a fallu faire de retenue d'eau, on en a parlé dans une précédente émission. Franchement, c'est abusé.
Ouais, quand même, il pouvait bien investir dans un bout de scotch. c'est toujours ça fait son charme. Hein.
Puis tu gagnes une médaille et tu repars avec un puzzle, c'est quand même pas mal aussi. C'est ludique.
C'est ludique. Et avez-vous parlé de cette journaliste australienne, journaliste sportive australienne sur place pour couvrir les Jeux Olympiques?
On n'a absolument pas parlé des JO. Ouais. Pardon, je vous ai coupé, madame.
Elle a présenté ses excuses.
Ah bon?
Qu'est-ce qu'elle avait fait?
Elle s'est trompée de pays.
Non.
Elle était venue couvrir.
Elle était australienne, elle couvrait pour l'Australie.
Elle couvrait la compétition de golf, elle a été super déçue.
Non, en revanche, elle ne s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi froid en Italie,
oui.
Ce qui pourtant était relativement prévisible, et que donc la résistance à l'alcool soit moindre. Résultat, elle était torchée de chez torchée devant les caméras.
Devant les 3000 caméras au mètre carré, donc.
Devant les 3000 caméras au mètre carré précédemment citées. Elle a fait des interventions pour couvrir l'événement qui était assez éthylique, il ne faut pas se mentir.
Ah, moi, je suis sûr que ça m'aurait distrait.
Que, franchement, elle ne s'y attendait pas à ce que la différence de température, ça fasse tenir moins à l'alcool.
Allez, madame Ginette, tout le monde sait très bien que de toute manière, pour commenter le curling, il faut être alcoolisé.
Oui, certes. Alors après, il y a une grosse polémique sur le curling
entre la
Suède et le Canada.
Ah bon, ils avaient un balai non réglementaire.
Non, mais apparemment, la Suède a accusé le Canada d'avoir touché deux fois le palais au sol, ce qui a priori est interdit. J'en sais rien, je te connais.
Ah oui, c'est totalement interdit, ça. C'est totalement interdit, ça. J'oserais même pas le faire, même à Guéret.
C'est ça. Du coup, les Canadiens, ça les a énervés. Ils ont insulté les Suédois. Donc, les Suédois, ils les ont re-insultés. Donc, les Canadiens, ils ont présenté leurs excuses. Et donc, les Suédois, ils ont fait modifier les règles du jeu pour que ça n'arrive plus jamais. N'importe quoi.
Et ils ont dit, débranchez cette journée. Australienne.
Plus jamais ça.
Qu'on n'en parle plus.
Ça peut, mais pour au niveau de l'échange linguistique, ça pouvait être intéressant s'il y avait des Québécois dans l'équipe.
C'est ça, tout à fait.
Mais madame Ginette, vous allez nous faire regretter de ne pas avoir regardé les JO, hein, parce mais que en ça fait, a l'air assez rigolo.
Il s'est passé plein de trucs, on n'était pas au courant, parce qu'on s'en foutait complètement.
Mais moi, des jeux éthyliques, ça m'intéresse.
La finale de hockey, c'était Canada contre États-Unis. Résultat, peu de temps avant le match, Donald Trump, qui, rappelons-le, a 5 ans, a demandé à un service d'intelligence artificielle quelconque de faire une vidéo qu'il a publiée dans laquelle il tabasse les joueurs du Canada.
C'est bien,
oui,
c'est
oui,
bien.
Il a 5 ans, bien. Je vous l'ai dit.
Alors,
je suis sûre qu'il joue avec son
caca. Je suis désolée, il a 5 ans et pas d'éducation.
Ah bah non plus, non, ça
parce
c'est
qu'il y a des enfants de 5 ans bien mieux élevés.
Mais alors finalement, les États-Unis ont remporté leur hockey, mais ont refusé de rencontrer Donald Trump parce que non, c'est trop la honte.
Oui.
Donc au retour, en retournant aux États-Unis, on leur a dit « Vous êtes invités à la Maison Blanche » et ils ont répondu « On s'en fout ». Voilà.
Tout va bien aux USA.
C'est ça. Et je finirai par la finale de ski de fond.
La finale de ski de fond.
Oui, tout à fait. Il y a du ski de fond aux Jeux Olympiques.
On les a jamais
retrouvés. Il y a une finale. Alors, je voulais tout de suite faire un disclaimer. Je ne regarde pas les Jeux Olympiques, mais en revanche, je lis beaucoup la presse qui commente les conneries des Jeux Olympiques. D'où mes pépites. Et en fait, pendant cette finale, il y a un chien sorti de nulle part, sans collier, pas agressif, qui s'est pointé, qui a suivi tout le monde, qui a payé ses gratouilles, qui allait voir les caméramens pour aussi se faire gratouiller, et qui a fait la finale comme ça.
D'accord. Et alors, il était en quelle position à la fin?
Alors, bah, il n'était pas dans les croix premiers, donc il n'a pas eu de médaille.
Ah,
mais
bon.
Apparemment, il s'est fait gratouiller par tout le monde et ça a donné à la finale une ambiance détendue.
Bon, en même temps, une médaille qui se casse en deux, bon...
Alors, ça avait l'air assez détendu, hein, de toute façon, d'après ce que vous...
C'était peut-être un des concurrents de l'épreuve, là, qui n'avait pas eu le temps de sortir son chien et qui s'est décidé de le promener dans la montagne.
Il y a les barres, ouais, il y a de la neige.
Ah, ça, on sent du vécu, ça, hein, le chien qui a envie de sortir vite.
Eh oui.
D'accord. Eh bien,
donc,
écoutez...
Donc voilà, je vais juste, dans ce climat un tout petit peu anxiogène, vous raconter des conneries de Jeux Olympiques, je trouvais ça marrant.
Mais tout à fait. Merci, Madame Ginette. Je suis étonné que vous ne nous ayez pas parlé des préservatifs qu'ils avaient fournis aux sportifs et qui ont été épuisés en 48 heures.
48 heures, oui, tout à fait.
Qui était épuisé?
Avec
les sportifs
ou
les
camarades?
Mais le stock,
en tout cas.
Normalement,
les athlètes de haut niveau, leurs entraîneurs et leurs équipes et leurs machins leur demandent de ne pas avoir de relations sexuelles. Sauf ouais. que, évidemment, le monde réel étant ce qu'il est, ils prévoient des préservatifs. Sauf que là, en 48 heures, c'était terminé.
Ouais, c'est pas parce qu'on me donne une bière que je vais être obligé de la boire, quoi.
Mais
ouais,
alors...
Ouais, mais en général...
alors... C'est, voilà. c'est, ça veut dire aussi que finalement, au bout de 48 heures, tout le monde était de nouveau concentré, impliqué dans sa discipline.
Ah, vous voulez dire voilà. qu'il faudrait regarder les résultats des performances les premiers jours, mon Dieu. Bon.
Voilà, le budget qui a manqué pour les médailles, on sait où il est passé.
On sait où il était.
Et du coup, quand on fait le compte des médailles que les pays ont gagnées, est-ce que ceux qui ont eu une médaille coupée en deux ont pu compter la médaille deux fois?
Parce que ce serait rien, pratique, parce que moi, ça. Moi, je disais que les bêtises des Jeux Olympiques, donc tout le sérieux, j'en sais rien. Hein.
Bon, mais en tout cas, Madame Ginette, c'était super de vous avoir avec nous dans Je m'ennuie bien.
Ouais, c'était très bien d'être là.
Vous pouvez rester un peu
on
avec
a,
nous.
On a enfin parlé Allez. De sport dans cette émission, on n'en parle jamais.
Si vous voulez,
j'étais
puisque...
la femme de la situation.
Puisque Hervé Hepp va nous dire deux, trois mots, parce que vous l'avez compris, chers amis auditeurs... Il s'occupe de la saison théâtrale de Guéret, oui, au fin fond de la Creuse. Et donc, le prochain spectacle, c'est rien que moins qu'un truc qui a eu 5 Molières, quand même.
Et
du
oui.
charbon dans les veines, et ça vient à Guéret, ça.
Et ça vient à Guéret. Alors voilà, ça, c'est les coups de bol d'un programmateur, et puis surtout des histoires d'amitié avec des équipes. Il y a 2 ans, à Avignon, j'ai un ami qui est auteur de théâtre et qui également fait... diffuse des spectacles, et il me dit viens voir du charbon dans les veines. Et en plus, il y avait un ami qui s'appelle Jean-Jacques Vanier qui jouait à l'intérieur de ce spectacle, et je connais très bien le metteur en scène. Et Jean-Jacques Vanier, un peu connu, et puis Jean-Philippe Daguerre, le metteur en scène, est maintenant carrément connu. Et en sortant du spectacle, le spectacle m'avait carrément, mais emporté, on va dire, c'est du Pagnol dans le nord, dans le domaine des mines, quoi. C'est des histoires d'amitié, de vie, de mort. Et je suis sorti du spectacle et de suite, j'ai dit, bon, mais je le prends, quoi. Je l'achète.
Je le veux.
Et donc, voilà, quand on sort de spectacle, en principe, surtout à Avignon, surtout que c'était les premières, voilà, puis comme ça passe super bien avec cette équipe, j'ai eu un prix... J'ai eu un beau prix, quoi. Un prix, voilà, que on pouvait se le payer, parce qu'on n'a pas... C'est confortable, mais on n'a pas d'énorme budget. Et j'ai eu le plaisir de voir la cérémonie des Molières. Et quand le premier Molière est tombé pour Charbon d'Aven, j'ai fait « Waouh !» Et puis 2, 3, 4, 5, record absolu. Et j'ai fait 5 fois « Waouh !» Il y avait tous les gens que j'adorais, que j'avais vus, qui étaient sur scène. Et effectivement, j'ai téléphoné pas le lendemain parce qu'ils étaient dans un état pitoyable. Mais j'ai... ça s'arrose, c'est comme les victoires.
Avec une journaliste australienne.
Voilà.
Exactement.
Et voilà, j'étais super content. Et puis, je me suis même pas aperçu que j'avais acheté pour la première fois de ma vie un spectacle qui avait eu 5 Molières. Et c'est eux qui m'ont dit, ils me disent, putain, 5 Molières. Et j'ai recroisé le metteur en scène et il me fait, enfoiré, c'est toi qui as la date la moins chère de toute la tournée. Parce que depuis qu'ils ont eu le Molière, le prix a été multiplié par 3. On n'aurait jamais pu se le payer.
Si vous êtes parisien, que vous n'avez pas les moyens d'aller voir du charbon dans les veines, à Paris, venez le voir à Guéret.
Et alors, si vous êtes parisien, si vous nous entendez, allez voir surtout aussi à Paris le Chant des Lions, qui est un spectacle aussi qu'on défend terriblement.
Mais je pense qu'il faut réserver quand même, hein, parce qu'ils
oui,
ont
mais
eu
nous,
beaucoup, ça a l'air
nous,
de
Nous, à Guéret, on l'a eu avant
fort.
Les autres.
On l'a eu avant les autres.
On s'excuse.
Voilà, et qui est un très, 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 très beau spectacle. Je ne me rappelle plus où ça joue, mais il y a des affiches partout dans le métro. On m'envoie des affiches, sauf que c'est une équipe que j'adore, voilà.
Très bien. Alors, on continue, parce que là, c'est, donc, le prochain, ça, c'est le 4 mars, hein, pour ceux qui sont dans le coin, dans le Limousin. Mmh. Le 4 mars à Guéret, du charbon dans les veines, spectacle de théâtre, 5 Molières. Donc, bon, on peut dire qu'il n'y a pas trop de surprises. Normalement, ça se regarde bien.
Hein. Oh oui, ça se regarde très, très bien.
Et il y a un peu de chanson dedans encore, hein, il me semble. Hein.
Exactement. Il y a de la chanson, il y a de l'accordéon, il y a de la musique, il y a tout. C'est un beau...
Et des mineurs, donc.
Ouais, et des mineurs. Et des mineurs.
Alors, si on avance un peu, Parce qu'il nous reste quand même une petite dizaine de minutes, donc on va essayer de voir les spectacles qui vous ont le plus marqué, peut-être dans ceux à venir.
Mais tous.
Tous, ah mince, alors mince.
Alors,
c'est comme si vous demandiez à une mère de choisir entre ses enfants. Enfants.
Voilà, c'est ça.
Alors par exemple, c'est un réflexe nerveux, on n'y peut rien. Je dois avouer que l'affiche, enfin la photo, elle fait peur un peu quand même.
Ah ouais,
on se croirait dans un roman de science-fiction. Un
alors
peu.
On n'est pas du tout dans ça, c'est fantastique. C'est le genre de spectacle trash, mais dans le bon sens du terme, que j'adore. Je suis sorti, j'ai fait « Ouh là là, on est capable de faire ça !» Ça raconte l'histoire de deux sœurs qui vivent on est un peu dans une ambiance pompidolienne, je ne sais pas si c'est un auditeur, ça leur dit quelque chose, mais très polissé, très rangé, avec des « ouh 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 ». Elles ont le même rituel le matin pour prendre leur thé, elles prennent la tasse toujours de la même manière et tout. Et puis il y a un petit grain de sable qui va se mettre dans cette mécanique. En vérité, c'est la même scène. Et puis, ce grain de sable va faire que ça se détraque. Et à la fin, on part, c'est carrément du punk absolu, quoi. Et c'est superbe à voir. Je vous jure, on sort. Et en plus, c'est vraiment une pièce extrêmement féministe, de libération, quoi.
Non, mais arrêtez, monsieur Herp, parce que là, madame Henriette n'a pas pris sa place, elle va vouloir prendre sa place. Hein.
Oh, madame Henriette, on vous trouvera une place, vous inquiétez
d'accord.
pas.
D'accord. Même si c'est complet, là, je me calerai sur un strapontin.
Vous avez dit féministe et punk, là, ça fait beaucoup. Hein.
Alors, madame Ginette est en train de prendre son billet sur SNCF Connect.
Alors, non, n'utilisez pas ça, vous n'y arriverez jamais. Hein. Vous ne serez jamais là en dans les temps. Je préfère le dire. Alors, vous voyez, c'est vrai qu'il y a des spectacles plutôt féministes hein, cette année aussi. Hein.
Mais je ne m'en suis pas rendu compte, vous savez que nous...
C'est comme pour le foot, en fait, vous faites du féminisme inconscient.
Ouais, je pense, parce qu'on est scène conventionnée d'internationale, et puis on a des statistiques à remplir. Et un jour, on m'a demandé la parité homme-femme, et je dis, oups, j'ai un problème. Alors là, ils m'ont regardé avec des grands yeux, du genre, là, là, ils programment. J'ai dit, mais j'ai trop de spectacles. Il y a plus de femmes qui passent chez nous que de spectacles dans lesquels il y a des hommes. J'ai dit, vous voulez que j'en enlève? Et ils m'ont dit, non, 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 laissez-les.
Ça équilibrera pour les autres.
Voilà. Ça rééquilibre la moyenne nationale, c'est chouette.
Ah oui, carrément.
Alors justement, en parlant de femmes, il y a Carmen Souza qui vient, je vois.
Ah ouais, ça c'est superbe. Carmen Souza, c'est une chanteuse du Cap-Vert. C'est magnifique. Alors en plus, voilà, ça fait partie des trucs incroyables que l'on a, puisque c'est des rencontres avec ce qu'on appelle des tourneurs, des chargés de diffusion, avec qui on a développé un partenariat incroyable. Et c'est une tournée internationale qu'on ne pourrait pas non plus se payer. Et le cas s'est passé il y a 4 semaines avec Antonio Lizzana, Eric Truffaz, qui ont monté Sketch of Spain. Qui est et puis le tourneur qui est un ami, on discute, il me propose des spectacles et puis on discute de ses vacances. Il me raconte une histoire qui était un festival de Katmandou où le saxophoniste Lizzana rencontre Truffaz et bah, ils sympathisent et ils disent on va monter un truc ensemble. Je dis qu'est-ce qu'ils montent? Sketch of Spain, un disque mémorable que jouait Miles Davis. Et je fais mais tu me l'as pas dit plus tôt. Là, il me dit, je peux pas t'en parler, ça c'est un truc pour l'international et les plus gros festivals. Il me dit, t'as pas les moyens. Je lui dis, au moins dis-moi où ça joue, moi je suis prêt à le venir. Et 2 jours après, il m'a appelé, il me dit, bon écoute Hervé, t'es tellement enthousiaste, moi je vais te le faire un prix, tu peux le faire, j'ose même pas vous dire le prix. Parce que là, le festival part dans le monde entier, font la grande scène de Marcillac. Ça a joué il y a 15 jours ici, le public était sous le choc. Et même Eric Truffaz et tout ça, et Lizzana sont sortis après, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Un public, c'est béni, quoi. Il dit, on n'a jamais été aussi bon. Ben, il s'est passé quelque chose de l'osmose, quoi.
Alors, pour Carmen Souza, le sourire de Madame Ginette me fait penser qu'elle valide.
Ah oui? Vous validez, Madame Ginette?
Elle valide fort, oui.
C'est beau, c'est son nouveau set. On est en début de tournée, puisqu'elle va faire tous les festivals d'été. Mais vous seriez joyeusement accueillis dans notre jolie campagne creusoise.
Alors, comme il nous reste peu de temps, on va quand même finir sur un spectacle dont il faut qu'on parle, qui va être en fin de saison quand même, mais
ah oui,
qui est visiblement un incontournable. Et Madame Henriette, c'est le premier billet qu'elle a pris dès qu'elle a vu...
Ah oui, c'était pour moi.
Et ça s'appelle « Au nom du Père, du Fils et de Jackie Chan ». Mais qu'est-ce que c'est que ce titre?
Waouh! Déjà le titre, quand vous voyez ça, ça fait waouh! Eh bien le titre, Ça raconte l'histoire de, une histoire véridique, hein, d'un jeune gamin qui un jour va dans un vidéoclub avec son père et son père lui loue un film de Jackie Chan. Et là, ça devient fou. Il est dans une famille où il y a des problèmes et tout. Et il arrive à s'évader avec l'univers de Jackie Chan et ça s'est réellement passé pour Mathias, le comédien. Et il décide de faire du karaté. Ça devient sa vie, ça devient sa passion. Et il devient comédien, Mathias, en vrai. Et il décide de monter un spectacle qui raconte la vie de Jackie Chan. Et il a l'idée géniale de mettre en parallèle sa vie à lui. Et la vie de Jackie Chan n'est pas une vie facile parce qu'il a été éduqué d'une manière, enfin, dans des écoles d'arts martiaux, ça rigolait pas, quoi.
Oui, on vous passe peu d'erreurs, je pense.
Il n'y a aucune erreur. Et ça raconte ces deux choses. Et Mathias m'a envoyé une photo il y a un an et demi.
Au JO de Paris.
Et je vous jure, je suis tombé à la renverse. Il avait fait des petits badges. Il nous en avait offert. On avait des petits badges au nom du père du fils de Jackie Chan. Et la photo, c'est Jackie Chan qui tient dans la main le badge. Et là, ça a été le moment de sa vie de rencontre. Mathias a rencontré son idole. Le spectacle a cartonné. Il a eu des critiques partout, Télérama, France Inter, Le Masque et la Plume et tout. C'est drôle, ça raconte un combat, il fait tous les personnages, il est délirant. Notre saison s'appelle Performance cette année. Il fait partie de... C'est pourquoi on appelait en partie la saison Performance, parce qu'une réelle performance. Vous le verriez sortir de scène, il n'y a que de l'eau qui coule de lui, quoi. Il y en a partout. On passe la serpillière derrière lui.
Il perd 2 litres à chaque spectacle.
Ah mais carrément.
Et donc, un spectacle qu'on peut aller voir, même si on ne connaît pas du tout Jackie Chan.
Ah ben, alors moi, je connaissais Jackie Chan parce que j'aime bien, mais le public, il a joué à Avignon, chez les amis, là, Art et Phil. Le public qui vient, c'est pas un public qui connaît Jackie Chan qui connaît le karaté. C'est une histoire humaine, je vous jure, c'est une histoire de construction d'un jeune garçon.
Bon, et comme il va falloir se quitter, on va vous demander un dernier mot quand même.
Au revoir.
Mais ça fait deux mots, ça. Alors, ça
pardon.
Non, mais
un dernier mot.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette culture aguerrée quand même? Parce que c'est vrai qu'on fasse un peu baver les Limougeaux, hein, qui nous envient maintenant.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a de la chance. Moi, j'ai de la chance de travailler à l'endroit où je travaille, avec une équipe qui est fantastique. C'est une équipe, un gros travail collectif que l'on fait. On a la chance de rencontrer du public à l'entrée, parce qu'on est dans une petite ville, 14 000 habitants. À l'entrée, je m'aperçois que je fais plus de bis que je sers de main. On connaît les gens nous connaissent. On crée un rapport parce que moi, j'en ai marre du théâtre consommation. On ne vient pas là pour s'asseoir, pour voir un truc et repartir après. On est légitime au théâtre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne s'autorisaient jamais à venir au théâtre, parce qu'ils avaient peur de ne pas comprendre. Il y a même des gens qui avaient peur de ne pas venir parce qu'ils ne savaient pas comment s'habiller. On a tout mis à plat. Moi, j'ai présenté un spectacle en tutu un jour, hein. Un spectacle classique.
Ah, j'espère qu'on a des photos.
J'en ai. Et au bout d'un moment, les gens sont légitimes dans la salle, ce qui fait qu'on offre un pot après tous les spectacles. Les artistes viennent plus qu'avec plaisir, donc vous pouvez croiser Arturo Brachetti, William S. Guiche, et qui vient discuter avec vous, et c'est marrant parce que des gens qui ne s'autorisaient pas à aller au théâtre leur font des retours, mais qui sont des retours extrêmement sincères et extrêmement beaux, c'est-à-dire ils sont admis dans la salle de théâtre. Et pour moi, je trouve que c'est un des plus beaux trucs qui puisse se passer.
Oh bah pour finir, c'est magnifique. Merci Hervé Herp d'avoir participé à Je m'ennuie bien. Et puis bah maintenant, on va essayer de rejoindre Monsieur Kogan pour parler plutôt cinéma, sans doute.
Eh oui, bonjour, Adi à toutes. Eh ben oui, je suis dans votre émission, notre émission, l'émission la plus importante du PAF.
Eh oui, c'est Je m'ennuie bien qui continue. Et Monsieur Kogan nous a rejoint, c'est fort aimable à lui. Alors, je sais pas, moi j'ai dit que vous alliez parler cinéma, mais en fait, j'en savais strictement rien.
Ah bah écoutez, à l'heure où je vous parle, les JO d'hiver sont finis, et à vrai dire, Je ne m'en suis même pas rendu compte parce que je ne m'étais même pas rendu compte qu'ils avaient commencé.
Et alors, donc, grâce à Madame Ginette, nous avons eu quelques anecdotes intéressantes sur ces JO d'hiver dont nous nous étions également totalement désintéressés.
Ah ben merci à Madame Ginette. Et donc, contrairement à ce que j'avais écrit en préparant cette chronique, eh ben Mme Dati a démissionné. Eh ben voilà, voilà. Donc on a une nouvelle ministre de la Culture, hein, l'ancienne directrice du château de Versailles, si je ne m'abuse, enfin présidente du château de Versailles. On va faire un petit voyage en France, en Irlande et en Islande. Vous voyez, je me tiens à ce que j'ai dit il y a quelque temps, toujours pas d'Amérique. Pour moi, c'est fini, terminado, basta. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je vous parle d'un personnage que tout le monde connaît en France, en l'occurrence, le commissaire Maigret. Eh oui, bah oui. Alors, vous allez me dire, Maigret, il a été adapté 300 fois sur le grand et le petit écran. Le personnage créé par Georges Simenon entre 1929 et 1972 donc, a été a porté la tête, on va dire, de Jean Richard, de Jean Gabin, de Bruno Kremer, de Depardieu, et donc, là, de Denis Podalydès, dans ce Maigret et le mort amoureux de Pascal Bonitzer. Pascal Bonitzer, c'est un de ces routiers du cinéma français, habitué aux comédies dramatiques, et qui signe là une version modernisée et pour le moins assez polie, sympathique, donc de Maigret. Notre célèbre commissaire, on fait comme s'il n'y avait pas une impossibilité technique en fait, mais ce n'est pas grave, hein. La police a changé, enquête sur la mort d'un diplomate retraité. Donc voilà, dossier sensible, mais... pas de course-poursuite ni de coup de feu. On est dans Maigret, hein. Sauf ceux du meurtre, bien sûr, qui sont révélés dès le début. Une enquête délicate, des personnages subtils, une langue pour le moins châtiée, presque désuète, et on s'amuse pendant 1h20. Notons le talent d'Anne Alvaro dans le rôle de la gouvernante, mais aussi des autres acteurs dans ce policier presque trop à l'ancienne, mais bon... comme un rouge millésimé. J'insiste sur le vin parce que, évidemment, ça a beaucoup sa place dans les récits entourant le Maigret et bien sûr chez Simenon en général. Anne Alvaro, c'est une actrice qui est assez connue et qui méritait là, ce rôle pour le moins intéressant pour elle. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez encore vu.
Non, pas encore.
Motivé, moi. C'est tiré d'un roman ou c'est inventé complètement juste le personnage?
Oui, c'est tiré d'un roman et sincèrement, c'est vraiment bien. Hein. On passe un moment agréable. Voilà.
Est-ce qu'on retrouve la discrète misanthropie du commissaire Maigret?
Oui, oui, il y a quelque chose, mais on y voit aussi sa naïveté, ce qu'on voyait peut-être moins dans d'autres interprétations. On y voit aussi une certaine naïveté et puis une certaine légèreté par rapport aux règles, etc. Et ça, c'est plutôt bien. Par contre, il y a une vraie différence entre Podalydès et les autres interprètes, c'est le physique.
Oui, c'est la carrure, hein. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à le voir là, oui.
Et justement, il en impose moins, il est plus subtil, et c'est son adjoint qui, pour le coup, apparaît comme quelqu'un d'assez imposant physiquement. Et donc, comme s'il y avait eu une forme de transfert avec l'adaptation moderne. Voilà. Passons aux séries maintenant, si vous le voulez bien. Je me pose une question. Est-ce que la meilleure plateforme de séries ne serait pas, à tout hasard, gratuite et franco-allemande, si vous voyez ce que je veux dire?
On voit tout à fait.
On peut le dire, Arte.
Eh bien oui. Avant de passer aux séries, je voulais quand même finir sur un film, finir sur le cinéma. Comme on a eu quelques semaines d'interruption, pendant ces semaines, j'ai vu quelques films. Et n'oubliez pas de voir ou de revoir Rental Family. Rental Family. De la réalisatrice Ikari avec l'excellent Brendan Fraser. C'est sorti depuis 3-4 semaines, je ne sais plus. Mais si vous avez la possibilité de le regarder, faites-le. C'est l'histoire d'un homme loué pour être mari, ami ou père ou ce que vous voulez. Ça existe vraiment au Japon.
Tout à fait.
Sauf que là, il s'agit d'un acteur blanc, un petit peu en fin de course, quoi. Et en fait, le film est génial, puisque évidemment, on se doute bien que louer pour être père, ça devient compliqué pour lui comme pour l'enfant. Je n'insiste pas, mais surtout, j'ose croire que vous n'allez pas le rater, surtout vous, Madame Henriette.
Pour le Japon. Ah oui, pour le. Ah oui, mais bon.
En tout cas, sacrée seconde partie de carrière pour Brendan Fraser. Hein.
Oui, en effet. On ne l'attendait pas.
Formidable. Et là, il est vraiment formidable, comme il avait été dans The Whale et dans une autre tonalité. Mais il est incroyable. Ce garçon se révèle un immense acteur. Voilà.
Alors qu'il a été brocardé.
Il a commencé dans des comédies potaches, lorsqu'il était
beaucoup plus jeune.
Oui, dans les films d'action et dans les comédies potaches. On ne va pas revenir sur ce qui lui est arrivé, voilà, et sur sa résurrection, mais tant mieux. Alors, côté série, je voulais bien sûr parler de Boglands, Kra.
Ah, c'était sûr.
Et oui. Parce qu'on nous parle beaucoup des séries nordiques, je vais y revenir, mais là, il s'agit d'une série irlandaise en gaélique. Alors, on entend quand même un peu l'anglais dans un hôpital, dans un service, etc. Mais les gens, entre eux, parlent encore cette langue. La langue de l'intime et qui se marie bien avec une ambiance très sombre, comme la tourbe où est retrouvé le cadavre d'une disparue 15 ans plus tôt. Donal O'Haley joue le policier, fils de la victime, qui, pour le moins, a des méthodes discutables, surtout qu'une jeune journaliste est là pour découvrir, elle aussi, la vérité. Alors, La beauté des paysages, mais aussi leur âpreté, est à l'image de la langue gaélique, qui est à la fois poétique et rude. Et ça ajoute à cette histoire où le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas de cadeau. Les rapports intergénérationnels, par exemple, sont particulièrement tendus. Voilà. Donc je dirais que c'est à voir absolument, et j'essaie d'être objectif pour le coup, parce que j'ai regardé un petit peu les avis d'autres gens, des gens moins passionnés que moi, sans doute, par l'Irlande, et qui mettent cette série au même niveau que les séries suédoises ou finlandaises, qui sont à la fois désespérées et magnifiques. Et là, on est en plein dedans. Donc,
est-ce qu'il y a des scènes de violence qui la rendraient compliquée à regarder pour les publics sensibles?
Alors, je dirais que... c'est plus dans le non-dit que c'est violent.
D'accord.
Mais évidemment, il y a deux, trois images un peu dures. Hein. Mais voilà, je pense à une des scènes vers la fin là, qui est sur le plan éthique très difficile. Mais en fait, par exemple, quelqu'un qui ne saurait pas de quoi ça parle ne comprend. Si on coupe la traduction, bon. Mais voilà, non, ça se fait pas de cadeau, y compris par rapport à l'histoire des mouvements irlandais. Voilà, même l'IRA en prend pour son grade. Voilà.
Vous conseillez.
Absolument, vraiment. Pour aller un petit peu plus haut, un petit peu plus loin, mais toujours en Europe, donc, toujours une île, mais un petit peu plus à l'ouest, donc, l'Islande. Autre pépite donc, de la plateforme Arte, friande de polar nordique s'il en est. La très humour noir et grinçante série La voisine danoise. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette série.
Alors, j'ai failli la regarder parce qu'elle était quand même très, très bien vendue par la communication d'Arte. Et j'ai renoncé parce qu'effectivement, a priori, elle comporte des scènes de violence un peu compliquées.
Je vais y revenir, évidemment. Alors, Trina Dirholm, déjà vue dans Festen au Royal Affair, hein, une actrice quinca qui pour le moins péchu, joue donc Ditte Jensen, ex-agente des services danois, au service actif, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et souffrant de PTSD, a décidé d'imposer sa loi dans son immeuble à Reykjavik avec des méthodes pour le moins singulières. Qui ne recule devant rien. Voilà. Mais vraiment, vraiment. Alors, il y a vraiment des scènes pas possibles. Donc, on rit, on frémit, tant les personnages et les situations vont du grotesque au tragique. Hein. Tout cela sur un rythme digne d'une production américaine et avec un entourage musical très, très, très fort, parce qu'il y a des scènes danser, qui sont vraiment très drôles, où on reconnaît Björk, mais pas seulement, hein, d'autres spécialités islandaises. Donc, c'est à déguster. Alors, il y a un épilogue tout à fait dément, mais, et je vous avais raison, j'y mets quand même une petite prudence pour les jeunes enfants qui pourraient être choqués. Voilà.
Ou ceux qui n'aiment pas se confronter à la laideur du monde le soir après leur travail.
Oui, mais là, je dois reconnaître que c'est tellement bien amené qu'il y a des choses qui passent, quoi. Mais enfin, quand même.
Alors, là aussi, il y a un contexte quand même, parce qu'une Danoise qui s'installe en Islande et qui décide d'imposer ses règles, bon.
Absolument, et je pense qu'il y a une forme d'ironie, puisqu'à plusieurs moments, elle est à la limite du racisme envers les Islandais, en leur disant, voilà, vous n'êtes même pas capable de parler cette langue, sous-entendu, c'est la langue de nous, les anciens colonisateurs, quoi. Donc là, il y a une vraie lecture aussi politique qu'on peut faire, mais après, il faut connaître ce contexte, il faut savoir ce qui se passe. Mais voilà, on n'est pas obligé non plus de tout savoir là-dessus. Et on passe quand même un sacré bon moment, mais en effet, il ne faut pas avoir les yeux trop fragiles. Voilà, le réalisateur Benedict Erlingsson s'était déjà très, très favorablement fait remarquer avec son Woman at War, qui était excellent, mais qui était déjà aussi très grinçant, hein, sur un propos politique aussi, avec une femme, pareil, très en colère.
Mais pas violent, par contre.
Ouais.
Enfin, en tout cas,
oui,
c'était pas vu, c'était pas violent. Vu, ouais, pas de...
Moins violent, mais assez cynique aussi. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? J'ai noté quelques petits au revoir, comme je le fais depuis quelques temps, parce qu'on ne s'est pas vu depuis quelques semaines. Alors, évidemment, j'ai pris l'habitude de citer les gens du milieu du cinéma, du milieu de la musique, et du milieu de la littérature et d'autres formes artistiques. Là, je dois reconnaître que mes trois colonnes sont lourdement chargées, donc je vais être assez rapide. Jana Brezhova était une actrice tchèque. Philippe Gauthier était un metteur en scène et un clown, voilà, qui était assez connu. Bud Cort était un de ces acteurs américains sans doute méconnu, mais qui avait quand même joué dans Harold et Maude, MASH, Dogma, Pollock, donc un acteur dont vous connaissez forcément le visage. Parmi les noms vraiment importants de cette liste, malheureusement, James Van Der Beek, qui était connu évidemment pour son rôle culte dans Dawson, hein, il est jeune, hein, il avait 48 ans, et moi, j'avais été extrêmement frappé par l'adaptation de Bret Easton Ellis, Les lois de l'attraction, voilà, dans lequel il était excellent. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Robert Duvall. Robert Duvall avait 95 ans, vous allez me dire, bon, voilà. Sauf que ce garçon a une carrière énormissime derrière lui, très tranquillement, sans avoir l'air d'y toucher, avec des Golden Globes, des BAFTA, en veux-tu, en voilà, en l'occurrence pour son rôle dans Apocalypse Now, bien sûr, mais il a eu l'Oscar pour son rôle dans Tendre Bonheur en 1984. Il a tourné avec les plus grands, hein, Arthur Penn, Sturges, Coppola, Altman, Lucas. Et oui, c'est lui qui joue dans THX 1138. Évidemment, Tony Scott. Et donc, c'est quand même assez fort, hein, je dois reconnaître, pour moi, mais pas seulement, que ce personnage qui nous a accompagnés très longtemps disparaissent maintenant, avec beaucoup d'hommages quand même. Hein. Voilà.
Et plutôt des rôles antipathiques.
Eh ben, c'était quand même compliqué. Je pense au Parrain, où il jouait un personnage qui était assez ambigu, à MASH aussi. Enfin. Mais ça, ouais, c'est un personnage qui savait tout faire. Hein. Il pouvait être formidable. Hein. Je pense à des westerns où il est formidable sur la fin de sa carrière. Et puis oui, il pouvait avoir un côté très antipathique dans ses rôles. En tout cas, un immense acteur, voilà. Je pense à Colors aussi, où il était formidable, avec Sean Penn, dont c'était un des premiers rôles. Pino Colizzi était un acteur italien, Frédéric Wiseman, réalisateur américain de documentaires surtout, Voilà, je pense oui, il avait aussi pas mal tourné en France. Eric Dane. Alors, Eric Dane, je l'ai vu récemment dans son dernier rôle où il se jouait quasiment lui-même, puisque cet acteur était très connu pour son rôle du Dr. Sloan dans Grey's Anatomy. Il avait aussi joué dans The Last Ship. J'avais bien aimé, moi. Voilà, un plaisir coupable.
Ah oui, oui.
Voilà. Ah oui. Et dans Euphoria. Mais ce garçon est mort à 53 ans de la maladie de Charcot. Et vraiment, dans Brilliant Minds, c'est assez troublant parce qu'on le voit très malade et il joue quelqu'un de très malade et on sent que c'est, voilà, que c'est pas vraiment joué. Voilà. Sekou Ouedraogo était un grand réalisateur burkinabé. Angela Luce était une actrice italienne. Raymond Bouchard était un acteur québécois. Et Robert Carradine, décidément cette famille est une tragédie, est mort à 71 ans. Alors, il était connu pour son rôle dans Lizzie McGuire. Il avait aussi joué avec Carpenter, et Molinaro et Tarantino. Dans le monde de la musique, Fred Smith était le bassiste de Blondie. Voilà, donc une figure que l'on a forcément écoutée. Ebo Taylor était un grand nom de l'afro jazz, hein, il avait 90 ans. Brad Arnold était plus jeune, hein, 47 ans, et c'était la tête de Three Doors Down que j'ai découvert, je dois reconnaître, et que je trouvais vraiment très intéressant. Alors, je suis un peu triste. Le grand nom de la musique disparue pour moi, c'est Andrew Rankin, hein, 72 ans, c'était le batteur des Pogues. Bien, voilà, décidément, ce groupe est en train de disparaître petit à petit. Et c'est évidemment tragique. Jerry Kennedy, figure de la country, ancien musicien de Dylan, 85 ans. Bon. Michel Portal était très âgé aussi, mais c'était un grand nom de la musique et en particulier de la musique de film, par exemple, où il avait composé la musique du Retour de Martin Guerre, Les Cavaliers de l'Orage aussi. Voilà, et puis il a joué avec Lubat et Galliano. Donc c'était un grand, grand, grand personnage. Et Willie Colon était un de ces musiciens latinos de New York. Côté littérature et autres, évidemment, Takahitsu Muraoka, pardon, était un de ces linguistes japonais, voilà, méconnu, je pense. Sis Nutbone était un écrivain néerlandais. Roy Medvedev, malgré son nom, était un dissident soviétique. Voilà. Donc, historien important. Hélène Arveler était une historienne aussi, spécialiste de Byzance. Fernand Berlumer était un écrivain québécois. Peter Stampfli, peintre suisse. Lee Ye Gerong, écrivaine coréenne. Jacques Gaillard, un écrivain universitaire français dont je dois avoir quelques livres derrière moi pendant que je vous parle. Évidemment, je pense à Claude Barsotti, écrivain occitan, mort à 92 ans, bien sûr. Gregorio Moran était un écrivain espagnol et un journaliste espagnol, voilà, qui était assez, assez clivant, mais un personnage intéressant. Abdul Majid Arfer, lui, était un archéologue iranien. Je vous vois faire un signe. Qu'avez-vous à rajouter ?
Non, mais rien du tout, c'est qu'il faut conclure, monsieur Kogan.
Ah, pardon. Alors, du coup, j'ai été beaucoup trop long. Alors, du coup, je ne sais plus quoi dire. Alors, les Moonshiners viendront samedi faire de la musique celtique au Limoges. Ça, c'est à ne pas rater. Et puis, un Baltrad à l'espace Jean Ferrat à Malmort ce week-end. Et la semaine prochaine, vous avez une expo à la librairie occitane qui s'appelle « Dynamique du paysage » à partir du 4 mars. Et vous avez aussi Pain Magazine au calme. Alors, Pain Magazine présente deux groupes, Birds in Row 3, Maelstrom et Louisa. Vous avez aussi un acoustique spécial Talent Féminin, un acoustique club, pardon, au Les Prochaunes, mercredi 4 mars. Je voulais quand même saluer le deux, trois choses, mais du coup, je n'ai pas le temps.
Non.
Alors, ça m'embête.
Ouais,
je voulais juste finir en disant que vous avez parlé de la Creuse. Et donc, en Creuse, la compagnie Le Grenier de Bambouchka viendra jouer du charbon dans les veines jeudi 5 mars à l'espace André Le Jeune.
Et oui, vous n'étiez pas encore arrivé, mais nous en avons abondamment parlé, car cette pièce a gagné 5 Molières.
Pardon, pardon.
Non, mais c'est qu'il y a eu trop de morts, je comprends. Hein.
Oui, trop de morts. Et donc, Backroom Ceremony sera au lendemain qui chante samedi 7 mars quand même. Faut pas rater ça. Voilà.
Allez, merci beaucoup, Monsieur Kogan, d'avoir été avec nous. C'était Je m'ennuie bien.